un temps pour. Alors malheureusement, aujourd'hui on n'a pas trop le soleil, mais on l'a eu ces derniers jours. Et est-ce que vous sentez ça? Ça sent quelque chose là. Ah, ça sent quelque chose. Je vous aide un peu, dans pas longtemps, on va rencontrer deux catégories de personnes. Il y a certains qu'on va appeler les juilletistes et les autres les aoussiens. Ouais. Vous voyez où je veux en venir? Ça sent les vacances. Ah, on est mi-juin, ça s'approche, la température augmente, on commence à avoir du soleil, on commence à planifier les choses, à prévoir où on va aller, ce qu'on va faire. Ça sent les vacances. Les vacances sont un moment de pause dans notre routine quotidienne. C'est un temps un peu à part dans l'année, un temps qui est souvent très attendu d'ailleurs, hein, qu'on peut préparer longtemps à l'avance. Certains même les préparent au mois de septembre pour l'année prochaine. Ils rentrent de vacances, c'était tellement bien, ils disent « Ah, on prépare les suivantes tout de suite. » Et puis pendant ce temps-là, on va les attendre. Les vacances sont un moment de calme, un moment de temps pour soi, en tout cas, je l'espère, et un moment où l'on se ressource, un moment où on passe du temps en famille. Bref, les vacances peuvent être pas mal de choses. Et dans sa parole, Dieu parle des différents temps qui jalonnent notre vie. Il y a un temps pour. Vous l'aurez compris, nous allons ce matin nous plonger dans le texte d'un sage, l'Ecclésiaste, le Coëlète pour ceux qui connaissent un peu plus. Alors on n'a pas réellement son identité, il y a débat à ce sujet, beaucoup pensent qu'il s'agit là de Salomon, mais je ne serai pas aussi catégorique, je ne le sais pas, et donc je vais m'en cantonner à ça. En tout cas, ce texte-là est très riche en réflexion personnelle sur notre monde d'un sage et en réflexion personnelle sur Dieu, une parole qui a été dirigée par l'Esprit-Saint qui a conduit. Ce texte est donc autorité, parole de Dieu. Ce matin, je nous propose de réfléchir ensemble aux différents temps que Dieu nous accorde. Et donc, nous aurons notre réflexion en deux temps. Nous considérons dans un premier temps l'activité humaine et ensuite nous considérons dans un second temps l'œuvre de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour considérer l'activité humaine dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et je vais lire les 10 premiers versets. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Je lis dans la version du Semeur. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Et on va s'arrêter là dans un premier temps. Dans la vie, force est de constater que le bon et le mauvais se succèdent. Il y a des périodes où tout va bien et d'autres où c'est plus difficile. Ce que nous pouvons tous constater sans difficulté, c'est notre impuissance et notre soumission au temps. Les circonstances qui déterminent le bon ou le mauvais nous échappent. Elles sont imprévisibles. Eh oui, on a tous ce coup de téléphone qu'on aurait aimé ne pas recevoir. Ou ce courrier qui nous annonce une bonne nouvelle, etc. Le verset 1 introduit le développement qui va suivre en présentant la base de la réflexion. Il y a un moment où il est approprié de faire telle ou telle chose. Et je nous propose ensemble de les regarder un peu une à une. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. On peut transmettre ou donner la vie, mais on ne peut pas la garder pour soi. Il faut mourir un jour. Ça fait un peu dramatique comme ça, mais j'espère que je ne vous apprends rien quand même. Vous le savez. La vie n'est pas permanente. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Et ceux qui ont la main verte le savent bien. Ce que l'on plante finit un jour par mourir. Et l'on doit arracher le plant pour pouvoir planter de nouveau. Les agriculteurs qui font ce cycle chaque année le savent. Il y a une période de l'année où on va semer, puis il y a une période de l'année où on va arroser, puis il y a une autre période de l'année où on va arracher, etc., etc. Et puis on reproduit chaque année ce nouveau cycle. Défaire ce que l'on a fait pour recommencer. Là encore, rien n'est permanent. Il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner. Alors ici, c'est un peu difficile car on ne sait pas si le sage est en train de parler d'abattre des animaux ou il est en train de parler d'abattre des êtres humains. Ce n'est pas précisé. Pour l'animal, il y a un temps évidemment pour le soigner s'il est malade ou s'il est blessé, mais il y a aussi un temps pour écourter sa souffrance, écourter sa vieillesse difficile ou s'il faut tout simplement en tirer de la nourriture. Pour l'homme, si la réflexion est en effet plus délicate, le fait d'abattre, il faut comprendre qu'on peut penser au contexte de la guerre ou de l'exécution de la peine capitale. Quand je le rappelle, quand le sage écrit ces textes-là, nous sommes sous l'Ancienne Alliance, et donc l'Ancienne Alliance codifie la peine de mort, dans certains cas bien particuliers. Et donc, on peut légitimement penser à ça. J'ouvre ici une petite parenthèse compte tenu des temps que nous traversons. Ce texte-là n'est pas du tout un argument en faveur de l'aide à mourir. Je vais être très clair. On ne peut pas déduire de ce texte, ah bah vu qu'il y a un temps pour abattre, bon, non, vous l'aurez compris, c'est complètement caricatural et exagéré. Je ferme la parenthèse, mais je préférais le dire quand même. Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Tout ce que l'homme crée a une durée de vie, une date de péremption. Nos maisons s'usent, nos voitures prennent des kilomètres, nos appareils électroniques ne suivent plus les dernières mises à jour, l'obsolescence programmée, etc., etc. On a tous des exemples, ou tout simplement l'amélioration technologique. Votre téléphone qui, pour l'instant, est récent, si on en reparle dans 5 ans, il sera peut-être plus exactement à la pointe de la technologie. Une nouvelle fois, le manque de transparence nous conduit à démolir pour reconstruire. Et j'ai en tête, on a déménagé à Fontenay-le-Fleury il y a quelques mois avec mon épouse, et quand on est arrivé, ils ont démoli une maison juste à côté de chez nous. Et ça m'a fait penser à ça. Un jour, cette maison, il y a bien un architecte qui a fait les plans, il y a bien une famille qui s'est endettée pour la construire, qui a vécu dedans, peut-être pour les enfants. Et puis aujourd'hui, cette maison, qui à l'époque était neuve, eh ben on l'a démolie pour libérer de la place et construire autre chose. Rien n'est permanent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je l'ai mis avec un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Roger le sait bien, le ministère comprend des super temps et puis parfois des temps un peu plus compliqués. J'ai en tête les obsèques. Ces circonstances de la vie qui apportent tantôt parfois de la joie et tantôt du malheur, de la tristesse. Le bon est ici limité par le mauvais. Et inversement, le inversement, il est important. Cette réalité met en valeur l'un comme l'autre. Profite des moments de joie, car ils ne durent pas. C'est ça qu'est en train de nous dire le sage. Mais on ne peut retenir ce qui donne de la joie, ni arrêter le temps sur les bons moments. Toutes bonnes choses ont une fin. Vous connaissez l'adage. Il n'y a là encore pas de permanence. Mais heureusement, l'autre est vrai aussi. Les mauvaises choses également ne durent pas. Elles ont aussi une fin. Le malheur est limité par le bonheur. Donc il faut voir ça dans les deux sens. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Alors là, c'est un peu difficile de savoir de quelle situation parle le sage. Parle-t-il de maçonnerie ? Parle-t-il de boucher les sources d'eau en temps de guerre ? Ça se faisait. Ou encore, parle-t-il du défrichage d'un champ en vue de le cultiver ? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est que la vie nous conduit à accomplir des gestes qui sont contraires. Un temps pour ramasser les pierres et un temps pour les jeter, qui conduira un jour à les re-ramasser de nouveau. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans nos bras. On a tous connu des gens avec qui nous avons été proches et que les circonstances ont conduit à l'éloignement. Par exemple, un déménagement, quelqu'un qui part vivre loin et donc que l'on finit entre guillemets par perdre de vue. Et oui. Mais encore le lien entre le parent et les enfants. Vous le savez, nos enfants n'ont pas vocation à rester avec nous. Et ils partent parfois loin. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous le savez. Ici, le sage montre que même notre vie affective a ses limites et que les relations que nous avons manquent, là encore, de permanence. Il y a un temps pour s'investir dans la relation et il y a un temps pour s'en éloigner. Ainsi va la vie. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. On a tous vécu ça. On passe du temps à chercher un objet égaré. Alors moi, je suis spécialiste d'avoir des papiers qui traînent sur mon bureau, que je vois 20 fois par jour, mais que je ne range pas parce que je n'en ai pas besoin. Et vous pouvez être sûr que le moment où il est rangé, c'est le moment où je vais avoir besoin de le chercher et c'est sûr que je ne vais pas le trouver. Ça, c'est ma spécialité. Mais d'autres en ont d'autres. Hein. Ces fameuses clés, là, on est pressé, il faut partir et puis on ne les trouve pas, etc., etc. Et d'autres fois, il nous faut accepter d'avoir perdu l'objet qu'on cherche. Quand ça fait longtemps qu'on l'a cherché, à un moment donné, il faut accepter de capituler. Bon, force est de constater, on ne le retrouvera pas. Ou alors, évidemment, comme ça arrive bien souvent, on va le retrouver quand on ne le cherchera plus. Toujours comme ça, dès qu'on en a plus besoin. Ah, bah il était là, bah oui. Non, accepter d'avoir perdu ce que l'on recherchait. Là encore, le manque de permanence caractérise même les objets auxquels nous tenons. Il n'y a pas longtemps, avec Mallory, quand on a préparé notre déménagement, on a été forcé de faire du tri. Eh oui, parce qu'on, vous savez, on a toujours trop d'affaires. Et puis, en faisant le tri dans mes vêtements, je me suis souvenu de quel moment j'avais acheté cet vêtement. Me dire, ah, je me souviens, ça, je l'ai acheté aux États-Unis, ça, etc. Puis là, de me dire, bon, bah, je le mets dans un sac pour l'amener à Emmaüs. Il y a un temps pour avoir et puis un temps où il faut accepter de lâcher. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Je les ai mis ensemble là encore. À l'instar de nos constructions, c'était plutôt, nous gardons nos affaires pour un temps, puis nous les jetons. Rien ne dure. Tout s'use, ou alors on n'en a plus besoin, ou alors nos goûts ont changé, etc. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ah, celui-là, je l'ai trouvé intéressant. C'est probablement l'un des contraires les plus difficiles quand on regarde bien, car certaines paroles peuvent causer beaucoup de tort. Et là, la Bible n'est pas avare sur le sujet. Le sage le dit, mais dans les Proverbes, on a plusieurs textes, plusieurs versets qui le disent, d'être aussi capable de faire attention quand on parle trop vite, ou parfois ce qu'on a lâché, une fois que c'est dit, on ne peut plus le récupérer. Ou évidemment, Jacques, avec son chapitre sur la langue. La langue est un petit membre qui peut faire beaucoup de dégâts, etc., etc. D'autres paroles, en revanche, peuvent encourager, elles peuvent stimuler, elles peuvent relever. Et d'autres sont coûteuses, mais nécessaires. Ce véritable ami qui va être capable de vous dire « Là, il y a un truc qui ne va pas. T'as fait ça, t'as été blessant. » Ces paroles qui sont coûteuses, mais qui sont nécessaires. La transparence, comme j'en parlais tout à l'heure. Il y a un temps pour aimer et haïr. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et là, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Et nous avons un Dieu d'amour qui nous demande d'aimer. J'ai prêché dessus la dernière fois. Mais alors pourquoi avoir un temps pour haïr? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Alors tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que la paire n'est pas symétrique. Aimer doit toujours conserver la priorité. J'espère que ça, vous le saviez. Aimer doit toujours conserver la priorité dans notre vie. Le savoir est une chose. Le mettre en pratique, c'est toujours plus difficile. Mais dans l'Ancien Testament, le verbe « haïr » n'a pas nécessairement une valeur négative. Et j'en veux pour preuve le fait que Dieu lui-même peut haïr. Psaume 5, versets 5-6. « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. » On parle de Dieu là. Celui qui est saint, celui qui est parfait, celui qui est amour. La haine, c'est la disposition que Dieu adopte à l'égard de ceux qui font le mal. Et oui. Et l'homme peut avoir une haine légitime, une haine analogue à celle de Dieu. Psaume 139, versets 21-22. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. On pourrait être tenté de dire « haïr ». Moi, en tant que chrétien qui prêche l'amour, jamais. Mais il ne faut jamais dire jamais. La vie nous oblige parfois à accomplir des choses qui sont contraires à ce que nous souhaitons. Par exemple, avoir le choix, vous le savez, entre la peste et le choléra, comme on dit, pour choisir le moins pire, comme en temps de guerre. Attention cependant, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. L'obéissance à Dieu reste impérative. Et le sage, dans sa conclusion au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, écrit ceci. Voici la conclusion de ce discours, donc de tous les chapitres qui précèdent, y compris le fameux chapitre 3 qu'on est en train de lire. Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. C'est ça la conclusion du livre de l'Ecclésiaste, la crainte de Dieu et l'obéissance. En écrivant ainsi, le sage prend en compte la présence du péché dans le monde. Et oui. Tout comme la loi mosaïque qui réglemente le divorce ou la guerre. En fait, le sage n'exhorte pas ici, mais il dresse un constat. Le temps est ressenti comme un maître qui nous domine, nous apportant parfois quelque chose, et son contraire la fois suivante. Alors, petite parenthèse, anecdote intéressante sur moi, je me dévoile, mais quand j'étais plus jeune, il était hors de question pour moi de porter une montre. Pourquoi ? Alors c'est un peu bête, hein, je vous l'accorde, j'ai grandi avec le temps. Mais parce que pour moi, porter une montre, c'était comme être menotté au temps, d'être soumis à lui, un peu la phase rebelle, vous savez, quand on est jeune, on passe tous par cette phase-là. Et bien là, moi, même le temps, je disais, ouais, non, le temps, je veux rien savoir et je ne serai pas menotté à lui. Réflexion un peu philosophique, hein, mais assez stupide, je vous l'accorde. Car le temps avance avec ou sans moi. Il n'y a pas le choix. Nous lui sommes soumis, qu'on le veuille ou non. Pas reculer le temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un court reportage sur un Américain, peut-être vous en avez entendu parler, qui essaye de ralentir son vieillissement. Peut-être c'est un milliardaire très connu qui a un rythme de vie ultra strict, il ne mange que des choses très spécifiques, il a des prises de sang, il prend beaucoup de compléments, il se fait même injecter le sang de son fils pour rajeunir. Enfin, on est dans un truc, c'est de la folie. Hein. Mais Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va réussir à échapper au temps, avec tout ce qu'il fait? J'aurais même tendance à dire qu'avec tout ça, il est plutôt en train d'en perdre du temps. Il ferait mieux de profiter de la vie plutôt que d'avoir une vie pareille pour mourir stupidement, puis pour nous faire comprendre ce qu'on sait déjà tous. Ah bah ouais, on va tous mourir. Ah bah oui. C'est pas une nouveauté, hein. Je ferme ici la parenthèse. Tous ces éléments soulignent que rien ne dure. Rien n'est permanent. Tous les bons moments, tant les bons moments, pardon, que les plus difficiles. Donc, c'est à la fois un encouragement à vivre les bons moments, mais aussi un encouragement à se dire, là je passe par un moment difficile, je sais que ça ne va pas durer. Et ça, c'est un encouragement. Ce que nous sommes et ce que nous réalisons, rien n'est durable. Voilà ce qui caractérise même notre vie, car il y a un temps pour mourir. S'il y a évidemment du positif, celui-ci est limité, entravé par le négatif. À quoi sert donc notre travail si l'avantage que nous en tirons est si faible? C'est la question que le sage pose au verset 9. J'ai oublié de remettre le texte. Un médecin que j'écoutais à la radio expliquait que lorsqu'il prescrit un médicament, il évalue le rapport bénéfice-risque. Alors s'il y a des médecins dans la salle, vous voyez ce que je veux dire. Avant de donner un médicament à quelqu'un, on évalue est-ce que les bénéfices du médicament vont être préférables au risque que le médicament représente sur la personne. Il y a un rapport qui est évalué et si les bénéfices sont supérieurs, eh bien, le médicament va être ordonné. Dans le cas que la question pose le sage, le rapport bénéfice-peine que l'on se donne, eh bien, il est mauvais. Il n'est pas bon. Le résultat ne répond pas aux attentes, à l'investissement qui est donné. Et ce rapport manifeste aux yeux du sage que les bénéfices sont bien faibles en comparaison de l'investissement à cause d'une chose, leur durabilité. Rien ne dure. Donc ça ne vaut pas le coup en fait. Mais le constat du sage n'est que partiel. Parce que là, vous vous dites, c'est vachement fataliste, hein. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Il manque une donnée importante dans la réflexion du sage. Et cette donnée, c'est Dieu. Dans un second temps, maintenant qu'on a considéré l'œuvre humaine, considérons l'œuvre de Dieu. Lisons la suite. Je reprends le verset 10 et je vais aller jusqu'au verset 15. J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce verset-là, gardez-le à l'esprit, il va être très important. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. Le sage a constaté l'activité humaine, sa portée et son coût. Mais désormais, sa réflexion se tourne sur l'activité de Dieu. On a regardé l'activité de l'homme, maintenant on va regarder l'activité de Dieu dans tout ça. Et dans un premier temps, il nous enseigne que c'est Dieu qui nous assigne nos activités. Écoutez bien, l'être humain n'exerce sa liberté que dans le cadre de la souveraineté de son Créateur. L'être humain n'exerce sa liberté que dans le cadre de la souveraineté de son Créateur. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Il n'y a pas d'aléatoire. Tout est sous son contrôle. Force est de constater que l'homme prend des décisions pour sa vie, pour ses activités. Ça, c'est un fait. On décide tous un moment, peut-être de changer de travail, de déménager, ou le nombre d'enfants qu'on va avoir, etc., etc. Mais l'homme n'a jamais totalement la main sur tout. Il est soumis aux aléas de la vie, Mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Certains disent le hasard avec un grand D. Un autre sage écrit, Proverbe 16, verset 1, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Sachant désormais qui est à l'œuvre, il n'est pas question de renoncer à ce que Dieu nous assigne, évidemment. On peut penser là à Jonas et son refus, malgré la patience de Dieu. « Jonas, tu vas aller à Ninive. »« Non, je veux pas. »« Tu vas aller à Ninive. »« Non, je veux pas. » Poisson, tu vas quand même aller à Ninive. Je caricature. Ici, le sage réaffirme la souveraineté totale du maître. Et je crois que c'est rassurant pour ceux qui se soumettent à lui. Pourquoi ? Car il fait toutes choses belles en son temps. Je ne sais pas si j'ai remis le texte. Ah si, j'ai remis. Il fait toutes choses belles en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un texte sur la foi, sur la confiance en celui qui gère tout, car il fait toutes choses belles en son temps. Attention cependant à ne pas tomber dans l'autre côté qui consisterait à nier les souffrances ou la réalité du mal. Vous savez, là, oh, ça ira mieux, c'est pas si grave. Nier la souffrance de celui qui souffre peut avoir, je le crois, des effets dévastateurs. Dévastateurs. Rappelez-vous, il y a aussi un temps pour se taire. Acceptez dans le silence ce que nous dit la personne. Mais le sage nous conduit à considérer plusieurs vérités. J'en donne trois. Première vérité, le mal et le malheur ne sont en aucune façon la faute de Dieu parce qu'il fait toutes choses belles. Deuxième vérité, en face des misères et des souffrances que comporte la condition humaine, Dieu est présent et il agit pour notre bien. Est-ce que quelqu'un l'a ? Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Troisième vérité, il fait cela en son temps, pas en notre temps à nous. Souvent, quand on prie, on aimerait bien avoir une réponse de Dieu là. Allez, je prie, d'ici quelques heures, la réponse de Dieu, elle tombe. Mais parfois, la réponse de Dieu, elle peut prendre plusieurs années. En son temps. Le souverain, c'est lui, hein. C'est pas nous. Hein. En son temps. Au moment opportun. Au moment où lui juge que c'est le meilleur moment pour le faire, selon sa volonté. La foi, c'est de la soumission à la volonté de Dieu, dans la confiance. Si le temps est ressenti dans la première partie comme un maître qui nous domine, nous apportant parfois quelque chose et son contraire la fois suivante, Dieu est maintenant présenté comme le maître de ce temps-là que nous ne maîtrisons pas. Et ça, c'est intéressant. Ainsi, la réflexion du sage sur le temps montre que c'est Dieu qui le gouverne et c'est source de confiance pour nous, de soulagement parce que nous sommes ses enfants. Quoi que nous fassions, Dieu accomplit son œuvre, avec ou sans nous. Il utilise nos activités, aussi dérisoires et limitées soient-elles, pour réaliser finalement tout ce qu'il veut de bon et tout ce qu'il veut de beau. À tout homme, Dieu a donné une certaine conscience qu'il y a plus que les réalités constatées, la pensée de l'éternité qu'on a lue. Il y a plus de permanence et de durée. Il y a quelque chose d'autre qui, pour le coup, dure toujours. Il y a l'éternité. Le sentiment qu'il y a plus que ce que nous vivons dans cette vie présente. Cette notion d'éternité apparaît comme une clé qui donne un sens à notre vie. Et pour celui qui a la foi, cette notion encourage, cette notion, elle rassure, notamment, par exemple, face à la mort. Et un jour, à des obsèques, il y a une dame qui vient, donc on faisait les obsèques de son amie, et elle me dit oh, « Heureusement qu'on a de l'espérance, heureusement qu'on a l'espérance. Car si on ne l'avait pas, qu'est-ce que ça serait dur ?» Je crois qu'elle avait raison. C'est pour ça que je dis toujours que les gens qui sont athées, quelque part, ils ont plus de foi que nous. Ils croient en un truc qui est du néant. Qu'est-ce que ça serait dur? Nous, nous croyons que la personne, on va la revoir. C'est un au revoir. Il y a un sens à nos circonstances que nous ne percevons pas. Un sens qui nous dépasse et qui dépasse le simple constat d'absurdité que le sage a dressé pour l'activité humaine. Ce sens ne nous est pas connu, mais il doit nous conduire à la confiance en celui qui maîtrise toute chose. Ainsi donc, le sage conclut, verset 12-13, « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie, et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Le repas fraternel tout à l'heure, là, c'est un don de Dieu. Alors vivons-le comme tel. Nous avons besoin de nous faire plaisir. Et oui, Dieu nous a créés ainsi et c'est un don qu'il nous accorde, nous dit le texte. Il sème dans notre vie des moments de bonheur pour que nous en jouissions, pour les vivre. C'est tout le contraire de l'ascéité. L'ascéité, c'est ce qui concerne à se brider. Non, je reste tel un moine reclus, à me couper du monde, de tout. Je crois que c'est contraire à ce que le sage est en train d'enseigner là. C'est un don de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Alors, jouis-en, profites-en. Ne te restreins pas à ça. Attention cependant à ne pas tomber dans le danger de vivre uniquement pour ses plaisirs, donc là du coup c'est l'extrême inverse, et à négliger la responsabilité que nous avons envers Dieu, envers les hommes et envers la création. Dieu nous soumet à l'un comme il nous soumet à l'autre. Le temps est un rappel de ce à quoi Dieu nous soumet. Le temps est un rappel de ce à quoi Dieu nous soumet. Avoir la foi, c'est aussi accepter ce que l'Éternel nous impose, eh oui. Que ça nous plaise ou non, il faut faire preuve de sagesse dans nos priorités. Nous arrivons pour certains au temps des vacances, et c'est un don de Dieu. Profitons-en pleinement pour les moments en famille, les moments pour nous ressourcer, tant physiquement que psychiquement, les moments pour admirer la création de Dieu et nous émerveiller. En général, on quitte la région parisienne pour aller soit à la mer, soit à la montagne. Émerveillez-vous de ce que vous voyez. C'est la création du Seigneur. Ou encore, jouissons de ces moments pour faire ce que nous ne faisons pas en temps normal. Passer du temps avec le Seigneur, par exemple. Dans notre vie très rythmée, de toutes les semaines, où on n'a pas le temps. Bah, peut-être là, c'est l'occasion de le prendre. Car c'est une grâce. Si l'activité humaine démontrait la fragilité, celle de Dieu manifeste la permanence qui nous fait défaut. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Seule l'œuvre de Dieu est durable. Et c'est là encore une source d'encouragement à compter encore une fois sur Dieu par la foi. C'est en comptant sur Dieu que l'on peut se décharger, se vider la tête et arriver vraiment à profiter du bon que la vie nous apporte. Sylvain Romerowski, un théologien qui a écrit un livre sur l'Ecclésiaste, dit ceci. « Puisque Dieu fait du bon, du beau, du solide, du durable, du parfait, qu'il tisse sur la trame si mélangée de notre vie, puisqu'au fond tout est entre ses mains, alors nous pouvons jouir avec une certaine quiétude des plaisirs qu'il nous accorde en ce monde, ce que nous ne pourrions pas faire si tout reposait sur nos épaules. » Donc, pas de mail, pas de téléphone pendant vos vacances, car il y a un temps pour chaque chose. Ne polluez pas les bons temps que Dieu vous accorde avec des éléments consacrés à d'autres moments. Ne vous inquiétez pas, le temps du travail viendra. Cette position souveraine de Dieu et la durabilité de ses œuvres manifestent sa grandeur. Et doit produire en nous émerveillement, reconnaissance et crainte. L'homme doit apprendre à craindre son Créateur, car si nous souffrons de manque, c'est en conséquence de notre péché que Dieu sanctionne en nous soumettant aux aléas du temps. Mais comme se plaît à dire le sage qui écrit ces lignes, rien de nouveau sous le soleil. Si notre confort a beaucoup évolué depuis la rédaction de ce livre, j'ai en tête notamment la fameuse climatisation qu'on peut mettre dans la voiture quand on part en vacances et où il fait 35 dehors, la condition humaine, elle, elle reste inchangée. Le temps n'apporte pas de nouveauté. Nous restons soumis à notre condition humaine et c'est au sein de celle-ci que nous sommes appelés à vivre la jouissance des biens que Dieu nous accorde, ainsi que la crainte empreinte de respect et de soumission à notre Créateur. Je conclus, désolé, j'ai été long. Je conclus, nous allons partir en vacances, du moins je vous le souhaite. Considérez ce temps comme un bienfait que Dieu vous accorde. Alors profitez-en vraiment, dans la paix et dans la reconnaissance. Les différentes périodes auxquelles Dieu nous soumet exigent de notre part une sérieuse réflexion sur nos priorités. Nous devons vivre pour Dieu et non pas pour ce qui est éphémère, ce qui n'est pas permanent, ce qui ne dure pas. Mais vivons pour Dieu. Vivre pour lui, c'est aussi recevoir les bonnes choses qu'il nous offre. Dieu seul est le maître des circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui sont à craindre, c'est Dieu qui est à craindre. Cette crainte, ce respect de Dieu et la soumission à sa volonté constituent en fait le cadre dans lequel se vit la jouissance à laquelle nous sommes exhortés. Alors, que Dieu nous permette de souffler pendant les congés qu'il nous accorde, mais aussi de pleinement profiter, car comme le dit le sage, c'est un don de Dieu. Amen.